VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, plusieurs formations politiques et associations de la société civile ont créé un mouvement nommé Convergence des forces patriotiques pour sauver le Mali. Après le report des législatives, une décision que les groupes en question conteste. La nouvelle coalition est composée d'organisations dirigées par d'anciens candidats à la présidentielle comme Moussa Cinco Koulibaly ou Omar Mariko. C'est unique dans l'histoire du pays que des partis de l'opposition et de la majorité décident de former un même front, a déclaré à ce propos Omar Mariko, leader du parti Sadi. Rappelons que les législatives ont été reportées à 2019 sur décision de la Cour constitutionnelle, prolongeant de 6 mois le mandat des députés à la demande de l'Assemblée nationale. Au Nigeria, le gouverneur de l'État de Kaduna, dans le nord du pays, où 57 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des affrontements intercommunautaires, a décrété dimanche un couvre-feu de 24 heures dans la ville de Kaduna, chef-lieu de l'État en question. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Le gouverneur Nasir El-Rufai a demandé aux habitants de respecter les consignes de ne pas sortir de chez eux. 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des violences intercommunautaires à Kasuan Magani, à 50 km de Kaduna. Les violences ont éclaté jeudi à la suite d'une dispute sur le marché local. Des représailles ont été menées par des jeunes Adara contre la communauté musulmane de la ville, où de nombreuses maisons ont été incendiées. Le couvre-feu a été décrété alors que des rumeurs se propageaient dimanche sur l'imminence d'autres représailles, des groupes de jeunes Haoussa commençant à vandaliser des voitures autour du principal marché de Kaduna. La zone de Kaduna est un foyer de tension traditionnelle entre les différentes communautés. La capitale de l'État éponyme a connu un pic de violence en 2002 lorsque plus de 3000 personnes ont été tuées en quelques jours au cours d'émeutes liées à l'organisation du concours de Miss Monde censé se tenir à Abuja, auquel les musulmans étaient opposés et qui a finalement été annulé.
Élection au Cameroun maintenant. À Yaoundé, le Conseil constitutionnel camerounais est en train de proclamer en ce moment même les résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre, dont le chef de l'État, Paul Biya, est le grand favori. Le président du Conseil, Clément Atangana, a ouvert la séance à 11h heure locale, 10h temps universel, et la cérémonie est retransmise en direct sur les médias d'État. En 2011, lors de la dernière présidentielle, la proclamation avait duré près de 8 heures. Rappelons que le Conseil constitutionnel étudie les recours post-électoraux avant de proclamer les résultats officiels 15 jours après le scrutin. Des résultats qui ne peuvent plus alors être contestés. Et toujours au Cameroun, au moins 30 personnes ont été interpellées dimanche en marge d'une manifestation interdite à Douala, organisée par un député de l'opposition. Le point avec Jean-Roger Bion.
Jean-Michel Nentche, député du SDF, avait donné rendez-vous à 15h sur un rond-point de Douala pour dénoncer les fraudes massives et honteuses qui ont marqué le scrutin selon l'opposition. Le sous-préfet de Douala 3, Nouo Bello, avait interdit la manifestation pour menace de troubles à l'ordre public. Monsieur Nentche ne s'est pas rendu à la marche. La police a encerclé son domicile. Il n'a pas pu sortir de la journée, a indiqué un membre de son parti. L'opposante Kawala a dénoncé sur les réseaux sociaux avoir été elle aussi en résidence surveillée totalement illégale dimanche après que des policiers ont pris position autour de son domicile jusqu'au soir. Monsieur Nentche avait déclaré début octobre soutenir la démarche de Maurice Kamto qui a revendiqué la victoire avant la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel, après avoir rejeté 18 recours post-électoraux, doit proclamer les résultats officiels de la présidentielle ce lundi à Yaoundé.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En République démocratique du Congo, le porte-parole de la majorité au pouvoir a déclaré ce lundi que sa résidence à Kinshasa avait été la cible de tirs nourris par des inconnus dans la nuit de dimanche à lundi, à 2 mois d'élection générale très attendue. Personne n'est blessé, mais les dégâts sont importants. La toiture est endommagée et mes 2 véhicules sont criblés de balles, a déclaré à l'AFP Andriane Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, la coalition des partis au pouvoir en RDC. ancien chef de la sécurité, ex-directeur général du géant minier congolais, la GECAMINE, général des carrières et des mines. M. Atundo occupe actuellement les fonctions de président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité. Au Congo-Brazzaville voisin, la General Trading Company, créée par les frères Jumbo, expérimente la culture de palmiers, mis à huile en zone de savane. Depuis des années, le pays ne cultive ses palmiers qu'en forêt. Et pour cela, il faut raser de grandes étendues de massifs forestiers. Notre correspondant Arsène Séverin a visité les plantations de palmiers à huile au village Gansou. Son reportage.
Il y a quelques années, 180 000 hectares de forêt avaient été attribués dans le département de la Cuvette à une société, Atama Plantation, pour être rasés et remplacés par les palmiers à huile. L'affaire avait fait polémique, plusieurs journalistes avaient dénoncé le projet. Aujourd'hui, ce permis d'exploitation est suspendu. Le Congo-Brazzaville, c'est aussi 35% du territoire couvert de savane. Et c'est sur ces surfaces de savane que les frères Jumbo et leur entreprise GTC expérimentent les cultures de palmiers à huile à Gansou, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Michel Ndjombo.
Nous avons vu qu'il y avait un réel intérêt à s'installer en savane pour faire du palmier, parce que les différences de rendement n'étaient que de 30% par rapport à la forêt. Aujourd'hui, nous sommes à 10,5, donc 10 tonnes et demie par hectare de régime. On a vraiment la conviction ferme que les nouvelles surfaces qui ont été plantées par GTC, nous nous disons que nous pourrons gagner 1 à 2 tonnes par hectare en plus que ces surfaces. Donc on sera autour de 12 tonnes hectare. Et ça, c'est à comparer avec la forêt qui, en zone de forêt en Afrique centrale, c'est plutôt 15 tonnes hectare.
Le Congo-Brazzaville a eu une grande expérience en palmier à huile, ce qui semble s'étioler 40 ans après. GTC a fait recours aux techniciens ivoiriens pour bien conduire son projet.
Je suis Marcelin Tando, je suis venu de Palmissi. On avait quelques maladies qu'on a essayé de corriger. On a extendu encore la parcelle d'exploitation. Et aujourd'hui, nous sommes venus en 2015. Les parcelles que nous avons plantées sont entrées en production présentement. Nous sommes en zone de savane. Je reviens sur ce côté. Nous étions à 6 tonnes l'hectare. Nous sommes passés à 8 tonnes l'hectare jusqu'en 2017.
Du côté de la recherche scientifique, les doutes subsistent, notamment sur le rendement. Mais la nouvelle expérience mérite d'être soutenue. Le chef du département sylviculture et dynamique forestière à l'Institut national de la recherche forestière, Jean-Pierre Campé.
Oui, présentement, je me dis, c'est à quel prix qu'on va donc produire en savane, parce que ça va nécessiter effectivement beaucoup d'argent. Non, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. L'optimum serait que maintenant qu'ils veulent bien s'y mettre, que l'on fasse des essais, et aussi bien des essais de densité que des essais de fertilisation. Et je n'exclus pas qu'il y ait des maladies et des ravageurs qui pourraient également s'y mêler. Et nous, on est prêt à vouloir bien mettre notre politique de recherche pour aider ces industriels.
La culture de palmier à huile pourra booster toute la politique de relance agricole que le Congo entend mettre en place. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, 2 jours après le coup de tonnerre de l'annonce par Washington du retrait des États-Unis d'un traité majeur sur les armes nucléaires, le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, rencontre ce lundi à Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, pour des explications sur cette décision. Selon M. Lavrov, le retrait américain de cet accord signé au temps de la guerre froide, annoncé il y a 2 jours par Donald Trump, rendra le monde plus dangereux. Idrissa Sedoudia.
Cette visite prévue de longue date avant que le président Donald Trump n'annonce sa décision de retirer son pays du traité INF sur les missiles de portée intermédiaire conclus avec l'ex-Union soviétique pendant la guerre froide était déjà importante s'agissant du premier déplacement d'un haut responsable américain à Moscou depuis plusieurs mois. Mais l'annonce de Donald Trump samedi lui a donné encore plus de relief alors que les relations avec la Russie sont déjà au plus bas. John Bolton considéré comme un faucon de l'administration Trump, doit rencontrer Sergei Lavrov dans la soirée. Les responsables russes s'attendaient à ce que le conseiller américain leur explique la position de Washington sur le traité INF. Le conseiller présidentiel doit également s'entretenir durant son séjour avec le président russe Vladimir Poutine, mais cette rencontre n'aura pas lieu aujourd'hui, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.